Bonjour, bonjour. Oui, je suis heureuse d'être ici ce soir devant vous tous et toutes. Ouais. Et je suis tout honorée que mes parents soient là ce soir. J'ai beaucoup reçu spirituellement de mes parents. Mes parents étaient des missionnaires qui sont partis au loin, des gamins qui sont partis avec 4 enfants sous le bras au loin. Et ils ont servi leur Dieu de tout leur cœur. Et moi, j'étais témoin que ce qui se disait devant des autres, ils le vivaient à la maison. C'est des gens passionnés de Dieu. Et encore aujourd'hui, c'est des gens les plus passionnés de Dieu que je connais. Et ça me touche beaucoup et je vais honorer l'héritage que j'ai reçu de mes parents. Merci pour l'un et l'autre. Hein. Chacun de vous m'a vraiment aidé, m'a ancré dans ma foi en Dieu. Voilà. J'ai une nouvelle amie qui aime beaucoup en recherche de sens et de spiritualité. Et avec cette amie, on parle beaucoup de Dieu. Alors, on a des approches différentes. Des discussions très intéressantes. Et je l'ai invitée à venir ce soir. Malheureusement, elle ne pouvait pas, mais je lui ai dit, viens et dis-moi sur quoi je vais parler. Et elle m'a dit, le souffle. Alors, ce soir, nous allons parler du souffle. Merci, Lo, qui m'a mis sur cette piste. Un sujet vraiment essentiel, le souffle de Dieu, l'Esprit Saint. Alors, quand vous entendez souffle, Esprit Saint, quels sont les mots comme ça qui surgit en vous? Allez, comment? Vie. Souffle. Souffle de vie, ouais. Tempête. Ah. Respiration, création, ouais. Murmure, ouais. Ah oui, ok, course à pied, ouais, merci Jean-Marc, ouais. Oui, c'est un sujet très très riche, on pourrait passer des mois sur ce sujet, et dans 20 minutes, on va dire certaines choses, mais c'est une des 3 personnes de la Trinité. Donc, c'est essentiel, ce sujet-là. C'est essentiel de bien connaître le Saint-Esprit. Alors, pour trouver où est-ce qu'on a parlé du Saint-Esprit pour la première fois, hein, dans notre Bible, hein? Genèse 1, tout au début. Voilà, les premières pages de la Bible, les premiers versets. Genèse 1, versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était alors informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Le souffle de Dieu. Hein? En hébreu, c'est ce mot ruach. Pareil, il faut racler la gorge comme ça pour le dire comme il faut. Ce souffle de Dieu planer sur le chaos au départ. Voilà. Si on fait des recherches, hein, maintenant on trouve des outils incroyables, hein, où on peut aller chercher alors ce rouard, alors ça veut dire quoi vraiment? Alors vous voyez, hein, ça veut dire plein de choses. Et dans l'Ancien Testament, ça arrive 348 fois. Et oui, c'est à la fois haleine, vent, esprit de Dieu. Voilà, donc c'est très complexe, hein, ce sujet de l'esprit, le ruach, souffle de Dieu. Mais, alors, j'enlève comme ça, vous m'écoutez. Mais vous pouvez aussi faire la démarche pour le Nouveau Testament, ou en grec, hein, en hébreu c'est ruach, en grec c'est pneuma. Pneuma, j'espère que je le dis juste. Et aussi, hein, 344 fois, c'est vraiment... notre Bible est remplie d'allusions au Saint-Esprit, au Ruach, à cette personne de la Trinité si essentielle pour notre vie. De tout temps, le Dieu chrétien existait et le Dieu chrétien est trois. On entend souvent ce mensonge planer comme ça, que Dieu s'ennuyait dans son ciel. Il a créé des êtres humains pour un peu jouer avec nous, avec nos destins, un peu quelqu'un de sadique. Mais il n'y a rien plus vrai, plus loin de la vérité. Dieu est trois. Et de toute éternité, ils étaient dans une communion, dans une intimité, dans une relation exubérante. De tout temps, il y avait cette relation, cette intimité entre eux. De la joie, l'extase. Et un beau jour, ils ont dit, faisons les humains à notre image. Ouvrant ce trio, il y a Roblev, c'est un artiste russe au 15e siècle, il a fait cette fameuse peinture, malheureusement, j'ai pas amené ça, mais où on voit l'icône de la Trinité, et c'est en fait Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et la perspective permet au spectateur d'être inclus, d'être à la table de la Trinité. C'est énorme, énorme en fait, ce que la Bible nous dit. Eh bien, voilà, pour créer les êtres humains à son image, il fallait, comme les parents qui préparent la chambre de leur enfant, pour l'arrivée de l'enfant, Dieu a créé, ça semble un peu égocentrique comme ça, mais moi je veux le croire, l'univers et la terre étaient créés pour que nous ayons un cocon où vivre et nous épanouir. Et voilà les galaxies, lancées en orbite, voilà cette planète bleue qui est merveilleuse, merveilleuse jusqu'au moindre détail, la beauté sublime. Et là, la Bible nous dit, dans un jardin, Dieu installe les êtres humains. Et on dit, c'est dit, donc il souffle dans l'être humain, il se souffle de Dieu, voilà, donc chaque être humain sur la terre a ce souffle de Dieu en lui et en elle, souffle de vie. Qu'on soit croyant ou pas, on a le souffle de Dieu en nous. Eh bien, et j'adore ce verset, Genèse 3, 8, au moment de la brise du soir, c'est de nouveau ce mot roar, au moment de la brise du soir, l'Éternel parcourt le jardin pour rencontrer Adam et Ève, pour avoir cette intimité, pour parler avec eux. Dieu veut être intime, il veut être notre ami, il veut être que nous soyons une vis-à-vis avec lui et il veut collaborer avec nous à la construction de cette planète en fait. Travailler avec nous et nous avoir comme vis-à-vis. Et voilà, nous connaissons l'histoire. Il y a eu cette indépendance, les êtres humains voulaient l'indépendance et ont renoncé à suivre Dieu. Et avant qu'on leur jette la pierre, pensons à nous au quotidien. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis très souvent indépendant dans ma journée. Je n'ai pas trop envie d'aller écouter et suivre Dieu. Donc voilà, c'est un peu notre état humain, où on ne fait qu'à notre tête en fait. On veut faire comme nous on veut. Pourtant Dieu est là, il nous invite. Et voilà de nouveau le chaos qui s'installe. De nouveau le chaos, le Saint-Esprit avait amené tout à la vie et voilà de nouveau le chaos qui s'installe sur nos terres à cause de notre volonté d'indépendance. Mais c'est Dieu qui dit, je vais faire un projet, un plan de rédemption. Et il lui a fallu longtemps, longtemps Dieu, ça lui a pris longtemps. 10 ans, il a pris du temps pour que ce plan de rédemption soit fait. Un homme au loin, Abraham, stérile, qui après une famille, qui donne une nation qui est esclave, qui après libère pour amener dans le pays promise, qui fait qu'à leur tête aussi. Dieu a été très très au cours des siècles, très très patient avec son peuple, qui n'arrêtait pas de vraiment lui dire non, on veut pas de toi. Et cet Esprit Saint qui planait aussi pendant tous ces siècles, en fait, qui était toujours là, qui cherchait, en fait, cette intimité avec des êtres humains, qui les inspirait. Mais le plan de Dieu avançait jusqu'à ce qu'un beau jour, Dieu en personne foule notre planète. Vous réalisez comment c'est énorme, ça? Dieu en personne qui dit, je viendrai en personne. Et là, alors, ces magnifiques passages où Jésus retourne. Aussitôt, donc il choisit d'être baptisé. Donc aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. En même temps, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » C'est un tableau unique, hein? Un tableau où à la fois on voit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et c'était un moment incroyable. Et là, Jésus est rempli du Saint-Esprit et son ministère va commencer. Il va commencer en fait cette nouvelle création, commencer ce royaume qui a démarré avec sa venue et qui, on attend encore hein, l'accomplissement de ce royaume. Voilà, Dieu qui avance, Jésus qui va jusqu'à la croix pour payer notre peine, nous racheter, nous arracher aux forces de Satan, pour pouvoir nous gagner pour Dieu et permettre à ce qu'il puisse y avoir maintenant la possibilité d'accueillir le Saint-Esprit en nous. Il a fallu tout ça, il a fallu tout ce temps-là, il a fallu toutes ces étapes pour que nous puissions, comme dit Actes 1, 8, mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Il a fallu que Jésus vienne. Il a fallu qu'il paye notre peine, nous rétablir avec Dieu, pour qu'enfin s'accomplisse ce que Dieu a toujours voulu. Qu'est-ce qu'il a toujours voulu ? C'est être au plus près de nous. Et Jésus a dit, il faut que je m'en aille, il faut que je monte au ciel pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit, être des petits Jésus partout. Là, on est des petits Jésus, on est des disciples de Jésus. On veut lui ressembler, on veut rayonner, être rempli de son Saint-Esprit pour pouvoir lui ressembler et être ainsi en communion avec Dieu et vraiment témoin pour le monde. Le monde a besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Que Dieu veut être intime avec nous. Il a envie d'une relation avec nous. Il a envie de venir habiter au plus près de nous, nous remplir. J'ai une fois entendu quelqu'un qui disait, par exemple, je l'utilise à la première personne, la Liliane la plus authentique, la plus vraie, c'est quand moi, mon être, mon Liliane, qui je suis, est unie avec Dieu, avec le Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que je suis véritablement moi. Il veut pas venir effacer qui je suis. Il a envie de venir collaborer avec nous, remplir notre être tout entier, être au plus près de nous et avec nous continuer ce travail du royaume que Christ a commencé hein, et qu'il nous invite à faire. Alors, je vais faire une petite pause dans ce que j'ai à dire parce qu'on va lancer un petit clip. Je me suis beaucoup inspirée de The Bible Project. Allez voir sur Internet ce qu'ils font. Il y a plein d'autres clips qui vulgarisent les thématiques de la Bible. Voilà, on va entendre ce qu'ils ont à dire. Merci, Daniel.
Si on a déjà entendu l'expression « le Saint-Esprit » et qu'on veut en savoir plus, par quoi on commence ?
Eh bien, on commence par la première page de la Bible, où le cadre d'avant la création est décrit comme chaotique et recouvert par les ténèbres. Mais au-dessus du chaos, on a l'Esprit de Dieu qui plane, prêt à apporter vie, ordre et beauté.
Au fait, c'est quoi l'Esprit de Dieu ?
L'Esprit est le terme dont les auteurs bibliques se servent pour parler de la présence véritable de Dieu. Le terme hébreu est « ruach ».
Ruach ?
Ouais, fais comme si tu te raclais la gorge à la fin.
Mais qu'est-ce que c'est en fait ?
Eh bien, ruach peut signifier beaucoup de choses, mais ce qui les relie toutes, c'est l'énergie.
L'énergie ? Comment ça ?
Il y a une énergie invisible qui déplace les nuages, ou qui secoue les branches des arbres.
Oui, en effet, le vent.
C'est bien ce qu'on appelle ruach en hébreu.
D'accord.
Maintenant, prends un grand souffle. Tu le ressens en toi, là ?
Ouais, l'air.
Je parle plus précisément de l'énergie. Cette vitalité que tu reçois en prenant cette bouffée d'air, ça s'appelle aussi ruach. C'est le même mot utilisé dans la Bible pour décrire la véritable présence de Dieu. Autant le vent et le souffle sont invisibles, autant l'Esprit de Dieu l'est. Le vent est puissant, tout comme le Saint-Esprit. Et comme le souffle qui nous maintient en vie, le Saint-Esprit maintient toute forme de vie.
Ouais, rouar.
En parcourant l'histoire de la Bible, on découvre que le rouar de Dieu habilite les gens à accomplir des tâches spécifiques. La première personne chez qui on constate cette spécificité dans la Bible est Joseph.
L'Esprit de Dieu lui donne la capacité de comprendre et d'interpréter des rêves.
Ensuite, c'est un certain Betsalel, un artiste, qui en est investi.
L'Esprit de Dieu le remplit de sagesse et d'autres aptitudes. Il est notamment doté d'un génie créatif pour réaliser de magnifiques œuvres dans le tabernacle.
On voit aussi le rouar de Dieu habiliter une catégorie de personnes appelées les prophètes.
Il leur donne la capacité de saisir l'ensemble du contexte historique de chaque événement selon la pensée de Dieu.
Tout à fait. Et voici la lecture que font les prophètes de la situation du monde. Le rouar de Dieu a créé un monde vraiment magnifique. Mais en cédant au mal, les humains ont sombré dans l'injustice qui a engendré le chaos dans ce monde.
Une nouvelle forme de chaos en somme.
Exactement. Les prophètes ont déclaré que le Saint-Esprit viendrait, comme dans Genèse 1, sauf que cette fois, il transformerait le cœur de l'homme pour l'habiliter à véritablement aimer Dieu et les autres.
Comment se traduira ce nouvel acte de l'Esprit de Dieu ?
Eh bien, des siècles se sont écoulés et on découvre la personne de Jésus. Alors qu'il se fait baptiser dans les eaux du Jourdain, juste avant de débuter sa mission, on assiste à une scène extraordinaire.
Le ciel s'ouvre et l'Esprit de Dieu descend sur lui sous la forme d'un oiseau.
L'histoire raconte en fait que l'Esprit de Dieu l'a habilité à initier la nouvelle création. Et c'est ce qui se matérialise quand on le voit guérir les gens ou pardonner leurs péchés. Il insuffle la vie là où la mort régnait autrefois.
Dès lors, les chefs religieux s'opposent à Jésus et finissent par le faire tuer.
Mais même dans cette tragédie, l'Esprit de Dieu est toujours à l'œuvre. Les tout premiers disciples de Jésus, qui l'ont vu ressusciter, ont témoigné que c'est bien l'Esprit vivifiant de Dieu qui l'avait relevé d'entre les morts.
Initiant ainsi la nouvelle création.
En effet, ce processus est toujours en cours. Quand Jésus est apparu à ses plus proches disciples, il a soufflé sur eux en disant « Recevez le Saint-Esprit ».
Et peu de temps après ça, l'Esprit est descendu puissamment sur eux tous pour les intégrer à la nouvelle création.
Afin qu'ils répandent la bonne nouvelle et expérimentent une vie impulsée par le souffle et l'influence de l'Esprit de Dieu.
Aujourd'hui encore, l'Esprit continue de planer au-dessus des ténèbres.
Pour amener les gens à Jésus, les transformer et les habiliter à aimer Dieu et leurs semblables. L'espérance chrétienne réside dans le fait que le Saint-Esprit rendra son œuvre parfaite. L'histoire de la Bible s'achève sur une vision d'une humanité nouvelle, vivant dans un monde nouveau totalement imprégné par l'amour et l'Esprit vivifiant de Dieu.
Il y a un passage vraiment magnifique en Ézéchiel que je vais lire avec vous également. Ézéchiel 36, 26 à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, mon propre esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Il est possible aujourd'hui, alors je ne sais pas si Adam et Ève avaient moins de chance que nous, c'est une question que je me demande. Eux, ils n'avaient pas cet Saint-Esprit en eux. Ils n'ont pas eu ce... Bon, peut-être ils étaient purs, donc ils n'avaient pas besoin de ce changement de cœur. Nous, on a besoin de ce changement de cœur pour pouvoir obéir à Dieu et pouvoir être intime avec lui. Pouvoir avoir une puissance. Hein, il t'est dit, vous recevrez une puissance de pouvoir accomplir en fait les choses que Dieu nous donne à faire dans la vie. Nous avons chacun, chacune des vies défiantes en fait. Nous avons des choses compliquées à faire. Et Dieu veut nous donner les capacités de les accomplir avec son aide. Alors il y a ces deux parties. Hein. Sa vie en moi me donne cette intimité avec lui. Dieu ne peut pas être plus près que ça. Pendant des siècles, il était dans des temples. Il était dans le tabernacle, les temples. Et avec le venu de Jésus, avec même son ascension, en soufflant sur nous, il nous a laissé sans Saint-Esprit. Et depuis, Dieu n'est plus dans un bâtiment. On voit tous ces beaux bâtiments aujourd'hui. Dieu n'est pas... Il est en fait dans chacun de nous. Nous sommes des temples, en fait. Quand on part d'ici et on va dans nos vies, on va dans le monde, on amène la présence de Dieu avec nous là où on est. À la fois pour avoir cette intimité avec lui et à la fois pour être présence de Dieu dans le monde et accomplir des choses avec puissance. Donc, ce à quoi j'ai envie de nous inviter aujourd'hui, parce que beaucoup, la plupart entre nous, ont reçu cette Saint-Esprit, mais en Éphésiens 5, 17, c'est dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Il me semble qu'on peut laisser encore plus de place à Dieu dans nos vies. On a ce choix-là. Et c'est un peu ce choix à laquelle je nous invite ce soir. Alors, peut-être pour des personnes qui n'ont jamais invité Dieu dans leur vie, vous avez le souffle de vie de Dieu en vous. Et Dieu souhaite, il ne pousse pas la porte, hein. Il attend à ce qu'on l'invite. Et une fois qu'il est en nous, quelle joie pour lui de vivre en nous. C'est sa joie. Ce n'est pas pénible pour Dieu de vivre en nous, c'est vraiment un grand plaisir. Il nous aime, il est fier de nous, nos vies le rendent heureux. Et puis, il veut nous transformer et il veut nous donner la capacité de mener des vies puissantes en fait, mener des vies remplies de la présence de Dieu. Mais pour cela, il me semble qu'on doit laisser la place. Donc voilà, c'est un peu ce à quoi je nous invite aujourd'hui. On se connaît depuis des années, n'est-ce pas? On marche avec Dieu depuis des années. Moi, il y a une invitation, j'ai l'impression que Dieu nous fait ce soir. Es-tu d'accord d'encore me laisser entrer dans ces autres chambres de ton être? Il y a peut-être des recoins de ton être où là, c'est trop, non? Là, je résiste encore. De vraiment céder chaque recoin de nos vies à Dieu. Et il ne pousse pas la porte, il ne force jamais. C'est des invitations qu'il nous fait. Il dit, je veux venir dans toutes les pièces de votre être. J'ai envie d'inonder, de saturer ta vie de moi. Mais j'ai besoin aussi de ta permission. Voilà. Et c'est ça que je nous appelle ce soir. J'ai l'impression qu'il y a cette invitation. Permets-tu d'encore faire plus de place. Comme ces chants nous parlaient, un souffle de Dieu vient inonder ma vie de ta belle présence. Ce que je propose, c'est maintenant un moment de silence devant Dieu, chacun individuellement. Je vais terminer ce moment avec la prière et après, je vais mettre deux questions et je vous suggère d'être à deux. Peut-être pas forcément des couples ensemble, mais juste deux personnes ensemble. Et avec ces deux questions, juste un moment de partage et un moment de prière. Si vous pouvez avoir un moment de prière l'un pour l'autre. Ouais. Alors maintenant, juste un moment de silence en premier lieu. Quel immense honneur tu nous fais, notre Dieu, de désirer vivre en nous, de venir au plus près de nous, de retrouver cette intimité du Jardin d'Éden, en fait, qui t'a manqué terriblement tous ces siècles et auquel on a maintenant de nouveau accès. Grâce à ton Saint-Esprit, ta belle présence dans nos vies, quel honneur tu nous fais. Et montre-nous, s'il te plaît, toi, Saint-Esprit qui vis en nous, quel recoin de notre être résiste encore à toi? Quel domaine de nos vies on garde caché, fermé à double tour? Viens, Seigneur, nous mettre en confiance. Et monte-nous là où tu aimerais encore nous inonder, nous saturer de ta belle, belle présence.